Menstruel FM.
Avec Mathéo et Aurélie.
Bonjour.
Salut.
Bah vas-y Aurélie, présente tout ce qu'on va faire aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on devait parler des sanctuaires souterrains de Saint-Émilion. On a eu un petit souci d'ordre avoir des informations dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est publié qu'on a pu trouver nous. Donc du coup, on va vous parler du monde souterrain en général en archéologie. Et je vais vous laisser Mathéo faire une petite intro.
Voilà, donc le monde souterrain en archéologie, il a beaucoup de facettes. En fait, on a davantage, même aujourd'hui, quand on parle des souterrains, on pense aux tunnels, on pense à des choses creusées, on pense à de l'humidité, les puits, ça fait beaucoup, ça fait ressortir beaucoup de peur chez certaines personnes. Donc finalement, en fait, même en archéologie, on peut avoir cette perception un peu vague de ce qu'est le monde souterrain. Donc on a décidé de couper un petit peu ce sujet. Moi, je vais commencer par parler un peu des grottes. Après, Aurélie va vous parler des mines. Et on fera un dernier focus sur les souterrains en général. Et puis, eh bien, comme d'habitude, le petit fun fact et donc l'Arthur archéo de la semaine. Pour les grottes, bon, évidemment, elles sont toujours très ancrées avec la préhistoire. Évidemment, il y a des grottes qui sont plus ou moins occupées sur toutes les périodes. En fait, on va l'occupation ne se fait toujours pas dans les grottes, c'est toujours à l'extérieur de la grotte, donc les abris sous roches, des choses comme ça. Évidemment, tout au long de l'histoire, il y a eu des grands débats sur les préjugés avec les grottes. Je pense que celui qui a vraiment révolutionné la discipline, c'est davantage la grotte d'Altamira en Espagne. En fait, à sa découverte, je vais pas vous donner tous les détails, mais en soi, à sa découverte, il y avait des fresques dans cette grotte-là, des fresques au bison qui sont très très importantes. Et en fait, à la même période en France, il y a eu aussi des découvertes du même acabit. Et en fait, l'école française de cette discipline pensait que c'était des dessins contemporains. Et du coup, ça a mis vachement de temps à être un peu débunké finalement, et qu'il y ait vraiment des spécialistes dessus. Et aussi, tout ça, ça a amené ce côté un petit peu factice de la préhistoire, un petit peu, vieux, alors que finalement, c'est une période très, 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 très riche. Et donc, moi, je vais vous parler un petit peu d'un cas un peu plus local, c'est la grotte de Rouffignac en Dordogne. Parce qu'en fait, à l'occasion d'un voyage scolaire, on y est allé donc avec Aurélie et puis des gens de ma promotion. Donc très sympa, une grotte en fait qui a été découverte dans à l'époque moderne et qui aujourd'hui est assez importante parce qu'en fait c'est, enfin Aurélie va peut-être me corriger, mais il me semble que c'est la seule où il y a autant de représentations de mammouths. Dans, je crois qu'il y a 158 représentations de mammouths. Enfin voilà, et c'est super sympa d'y aller parce qu'en fait le guide est super sympa et puis en fait il y a une petite balade de quelques kilomètres dans les galeries dans un petit train électrique et franchement c'est assez ludique. Les fresques qu'on y retrouve elles datent du Magdalénien, donc à peu près 13 000 ans avant, et donc il y a un nombre assez important d'animaux, comme je dis des mammouths mais aussi des rhinocéros laineux, des bisons, des bouquetins, et c'est un peu la dernière qu'on peut vraiment visiter comme ça, même si aujourd'hui ils parlent de la fermer de temps en temps, parce que comme à Lascaux, il y a des champignons, des petits parasites qui viennent manger les fresques qui sont faites sur de la calcite, donc ça a tendance à s'effriter, donc un peu embêtant. Mais si jamais si vous y allez, n'hésitez pas aussi à passer au MAN, donc au Musée National de la Préhistoire, en fait, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est pas grave.
C'est parce que le MAN, c'est le Musée National d'Archéo,
voilà.
C'est deux différents.
En fait, je l'ai écrit, mais c'est pas ça, mais voilà, bref, Mathéo, quoi. Mais il est aux Aisy, juste à côté de Rouffignac, et très très sympathique, n'hésitez pas, si vous aimez bien la préhistoire, et puis que vous voulez faire une petite journée préhistoire, Rouffignac et le musée, c'est bien. Et je vous laisse Aurélie avec les galeries.
Oui, donc moi je vais vous parler en fait de tout ce qui est exploitation minière, donc pour l'exploitation des ressources géologiques. Donc on a deux types de mines qu'on retrouve en archéologie. Donc il y a les mines à ciel ouvert, donc en fait ça va être c'est pas comme les mines de galeries qu'on voit, c'est une mine qui est ouverte et on descend par palier. Donc on ouvre une très large zone, on descend par palier, on récupère les ressources géologiques dont on a besoin. Donc en fait, ça a plusieurs avantages de faire ce type de mine-là, c'est qu'on on est à ciel ouvert, donc on a la lumière directement, on a moins de problèmes pour tout ce qui est arriver à respirer, gérer les problèmes d'eau, etc. Mais le problème, c'est que on va ouvrir une très large zone et on a plus de difficultés à suivre des filons. Donc ça va avoir plutôt tendance à être abandonné assez rapidement. Et au bout d'un moment, quand on arrive au bout des paliers qu'on peut faire, on ne peut pas aller plus bas, il faudrait après réélargir la zone. Mais donc du coup, archéologiquement, ça laisse beaucoup de traces parce qu'on fait des modifications du sol sur une très très grande surface. Et donc après, les mines qu'on visualise nous, qui elles sont vraiment dans le monde souterrain sans avoir de vue sur l'extérieur, c'est les mines à galeries qu'on a l'habitude d'imaginer. Donc là, il y a beaucoup de systèmes d'évacuation de déblais, de gestion de l'eau, aussi pour tout ce qui est respiration, éclairage, etc. Donc on retrouve pas mal de systèmes de torches, d'objets qui sont faits en bois pour pouvoir extraire justement l'eau, les déblais, les faire remonter à la surface. Et donc là, le but, ça va être de suivre les filons de ce qu'on veut exploiter, que ce soit du fer, du charbon, tout ce qu'on peut exploiter sous terre, sur la plus grande distance possible, toujours en gérant ces problèmes de... Bah, arriver à survivre dans la grotte, et dans les galeries, et pas se retrouver enterré.
Et donc, dans ces galeries, bah, il faut bien utiliser des outils pour miner. En fait, bah, les outils changent évidemment au cours du temps et leur manière d'être utilisée aussi, mais on a quand même quelques techniques qui sont réutilisées, comme l'abattage au feu. En fait, ça permet de créer une source de chaleur où on veut travailler, mais aussi ça va éclater la roche ou la fragiliser pour la travailler à la main. En fait, on va amener une source qui va littéralement chauffer cette pierre et donc on va pouvoir après la travailler. Mais en fait, ça nécessite aussi un contrôle relativement particulier de l'atmosphère parce qu'en fait, on est dans un souterrain, donc la fumée, c'est pas génial. Donc il faut que ce soit relativement bien fait, sinon on meurt asphyxié. C'est aussi un risque de cet abattage au feu. Il y a aussi des techniques d'abattage un peu plus rares comme l'abattage à l'eau. En fait, c'est bien documenté dans le nord-ouest de la péninsule ibérique, à l'époque romaine du moins. Il y a un site qui le représente très bien qui s'appelle Las Medulas. En fait, on va creuser des galeries dans les montagnes où on ne retrouve pas de filons de minerais, pardon. Mais en fait, on va les inonder et donc sous la pression hydraulique, et le pan de montagne va s'effondrer et donc on va pouvoir récupérer là le minerai qui était un petit peu sous-jacent, qu'on pensait pas forcément qu'il était là, mais finalement qui était caché dans la montagne. Mais ça nécessite un assez important tri de déblais. Et donc finalement, c'est pour des productions quand même relativement importantes. On n'est pas sur de la collecte ou sur, comme a dit Aurélie, c'est un travail qui est à plus large ampleur.
Donc moi, pour vous parler un peu de cette exploitation du monde souterrain, j'y ai pensé tout à l'heure à un site que j'avais visité cet été en Picardie. C'est la cité souterraine de Naour. Donc en fait, c'est une cité qui est creusée par les hommes au Moyen-Âge, qui après est utilisé jusqu'au XVIIe siècle et qui sert aussi de refuge pendant les guerres mondiales. Et en fait, c'est toute une galerie qui constitue un village, on va dire, sous terre. Donc il y a 28 galeries, 300 chambres. C'est vraiment très très grand. Et en fait, c'est pour... au Moyen-Âge, dans le nord de la France, il y a beaucoup d'invasions, de risques pour les populations. Et du coup, ils vont avoir construit ce village souterrain pour pouvoir s'abriter en cas d'attaque, donc déserter le village à la surface, se mettre sous terre, comme ça personne ne sait qu'ils sont là. Et moi j'avais trouvé ça assez impressionnant parce que tout est creusé par les hommes. Il y a plein de petites niches, de chambres, etc. Je sais qu'il y a une petite chapelle, et donc c'est remodelé au fur et à mesure des siècles. Et il y avait un système que j'avais trouvé très très ingénieux là-bas, c'est qu'ils ont fait des systèmes de cheminées. En fait, tous les conduits de cheminées se rejoignent dans la montagne, et pour au final sortir au niveau de chez le meunier, je crois. Et comme ça, quand en fait, on fait tourner le moulin, on fait cuire le pain, etc., donc il y a de la fumée qui sort naturellement. Donc le conduit de la cité souterraine sort à cet endroit-là. Comme ça, en fait, on ne peut pas savoir que les vapeurs qu'on a sont le fait des populations qui sont en train de se réchauffer en dessous et de se protéger en dessous. Donc c'est en Picardie, donc c'est un peu loin de Bordeaux, mais c'est vraiment un site qui est assez incroyable et de se dire qu'on a construit ça nous-mêmes de notre main et que c'est encore aussi bien préservé aujourd'hui, c'est assez impressionnant.
Moi, ça me fascine en tout cas.
Ah ouais,
et donc,
pareil, hein.
Mais non, mais c'est assez incroyable. Mais donc, on a vu donc les souterrains, on a vu un peu la partie relativement cultuelle, on a revu la partie un petit peu domestique. Là, on repart sur le cultuel parce que finalement, les souterrains, c'est des endroits un peu divins, quoi, un peu mystiques. Et donc, on va parler de deux exemples. Moi, je vais vous parler du casque d'Agri. donc qui a été retrouvé chez moi en Charente, donc à la grotte des Peyrats, donc à Agri en Charente, près de la Rochefoucauld pour les connaisseurs. En fait, qui a été retrouvé pendant les fouilles dans les années 80. En fait, cette grotte, elle est occupée du Mésolithique, au Mésolithique, au Néolithique, à l'âge du bronze et à l'âge du fer et à l'époque antique. Donc vraiment, cette grotte, c'est un peu un espèce de refuge finalement. On a beaucoup de restes donc de toutes ces périodes-là. Et en fait, au cours de la fouille, on a retrouvé des dépôts de pièces d'armement, des vases céramiques, mais aussi des outils métalliques, alors qu'ils n'étaient pas forcément dans leur contexte d'origine, mais parce que, étant donné que ça a été remodelé un petit peu à l'époque médiévale, finalement, il y a pas mal de perturbations. Mais en fait, dans cette grotte, on a retrouvé le casque d'Agris, qui est qui est en métal, mais en fait, il est recouvert de plaques d'or avec du corail, enfin, qui est très très bien ornementé et qu'on peut voir aujourd'hui donc au musée d'Angoulême. Alors, il a pris un petit coup de vieux. Il y a pas longtemps, j'y suis allé et je me souvenais pas qu'il était. Il n'était pas si brillant que ça, finalement, parce que il est relativement brillant, mais là, je pense qu'ils ont du mal, en fait. Enfin, la conservatrice me disait qu'ils avaient du mal à conserver le taux d'humidité. Ça s'oxyde, donc bof. Mais en fait, ce casque, quand il l'a retrouvé, en fait, il a un coût au niveau, et en fait, ça pourrait aussi montrer un petit peu la défonctionnalisation du casque. Il a certainement été utilisé pour un rite, quelque chose comme ça, et finalement, en le percutant et en l'enfouissant, ça arrête le rite, quoi. Voilà, et je vous laisse avec Aurélie sur autre chose de très intéressant aussi.
Moi, je vais parler vite fait du culte à Mithra. Donc, Mithra, c'est une divinité indo-européenne, plutôt qu'on retrouve chez les Perses. Et donc, c'est un culte qui est diffusé par les armées romaines et en Gaule à partir du 3e siècle. C'est le culte à Mithra, lieu dans des Mithraeum, qui sont des édifices dédiés à Mithra. Et en fait, c'est des lieux de culte qui sont très stéréotypés et qu'on retrouve en monde souterrain. Donc ça va être des salles rectangulaires entourées de banquettes. Et donc le culte à Mithra, c'est un culte à mystère, donc qui est réservé à des initiés, en l'occurrence ici aux hommes. Donc on a tout un rite d'initiation qui se fait en 7 temps. Et donc on a beaucoup de sacrifices, de banquets rituels, donc on va pouvoir retrouver des sites comme ça. Il me semble qu'un mitraïum, il y en a un qui a été retrouvé à Bordeaux.
Exactement, et vous pouvez avoir les restes au musée d'Aquitaine, voilà, si ça vous intéresse.
Et donc, dans ce culte, on a l'importance du taureau qui est très représenté dans l'iconographie. Et donc, on pensait que dans les sacrifices, on sacrifiait des taureaux. Sauf que archéologiquement, on a retrouvé des traces de banquets et des traces de sacrifices, mais jamais de taureaux. Donc, ça laisse aussi le taureau, on sait qu'il vient du mythe du culte à Mithra. Donc, ça pose la question de est-ce que du coup, le taureau est considéré comme quelque chose de mystique et on le sacrifie pas, ou est-ce qu'on a juste pas, nous, retrouvé les traces?
C'est ça.
Et je vais... Pardon, vas-y.
Non, et en fait, tous ces cultes-là, autant avec le casque d'Agri qu'avec Mithra, en fait, ça fait penser à ces cultes chtoniens qui viennent donc de la terre, hein, en grec ancien. C'est des cultes qui relèvent finalement des divinités un petit peu psychopompes, donc qui accompagnent les âmes aux enfers. Et donc, autant Mithra que la divinité d'Agri sont chtoniennes. On va faire le fun fact maintenant, évidemment. On reste toujours sur le thème un petit peu Halloween, et donc on va vous parler de la malédiction de Toutankhamon. Alors, c'est un petit peu connu, mais bon, quand même, il faut bien revenir dessus. Donc, quand Howard Carter découvre Toutankhamon, évidemment, il ouvre la tombe, il fouille, il récupère tous les beaux objets. Sauf qu'en fait, en 1923, Lord Carnarvon, donc c'est le financeur des fouilles, il a fouillé avant et avec Carter, il est pris de fièvre, de frissons, et il meurt d'une pneumonie qui est suivie d'une septicémie, en fait. Et c'est la première victime de la malédiction. En fait, de 1923 à 1929, il va y avoir 10 morts, une succession comme ça, jusqu'à la mort d'Howard Carter. Alors pourquoi? On ne sait pas trop, mais je pense qu'Aurélie a quelques petites réponses.
En fait, ils ont ouvert une tombe de momie. Et donc, tous les processus d'embaumement font que ça reste un milieu très, très humide. En plus, on rajoute des produits qui ne sont pas forcément très bons pour la santé dedans. Et donc, ça a fait se développer un champignon quand il y a eu la réaction avec l'air quand on a ouvert le tombeau. Ce qui a fait que tout ce beau monde est tombé malade et qu'ils sont tous morts en suivant. Et donc, ça a créé cette malédiction que maintenant on parle encore. Non, pas du tout.
Pas du tout.
Mais... Et vite fait, on va parler de l'agenda archéo cette semaine. Alors, il y a deux journées d'études intéressantes cette semaine. Il y en a une jeudi sur les processions et les voies processionnelles dans le monde gréco-romain. Donc, c'est toute la journée, il me semble, à la maison de l'archéo.
C'est ça.
Non, il y en a trois. Il y en a une autre vendredi à l'archéopole sur les roses de Notre-Dame, donc plutôt histoire de l'art. Et il y en a une dernière vendredi aussi à la maison de l'archéo, celle-ci, sur les fameux sanctuaires souterrains de Saint-Émilion.
Voilà, et moi je rajouterais juste que jeudi, de 18h à 20h en amphi archéo, il y a une docteure, qui s'appelle Sabine Romavotani, qui va parler de son regard sur les mathématiques et la philosophie naturelle au Moyen-Âge, donc un petit côté aussi historique, voilà, pour ceux qui aiment l'histoire.
J'en ai oublié un dernier, au musée d'Aquitaine, jeudi, toute l'après-midi et jusque dans la soirée, il y a des chercheurs d'Ozonus et d'archéosciences qui présentent des objets du musée d'Aquitaine, et il y a des étudiants de l'université, pas forcément en archéologie, qui présente des œuvres du musée d'Aquitaine, donc c'est en libre accès, on peut aller voir et écouter les étudiants parler de ce sur quoi ils ont travaillé. Voilà. Et ce sera tout pour nous.